Vous écoutez, on lit pour vous.
Au robinet ou en bouteille? Quelques tuyaux pour choisir votre eau. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 18 avril 2025 dans la presse. Au Québec, l'eau qui est en réseau est généralement de bonne qualité, assure Catherine Huot, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Mais dans certaines situations particulières, une contamination microbiologique ou chimique peut survenir, par exemple, dans des puits privés ou de petits réseaux. Il peut alors être recommandé de faire bouillir l'eau ou de la filtrer. En prévention, du chlore est généralement ajouté par les municipalités dans le réseau municipal pour éviter que des bactéries n'y prolifèrent. On en met idéalement la quantité minimale, indique la médecin. Pour ce qui est du plomb, il est vrai que certaines vieilles tuyauteries au Québec en contiennent encore, ce qui peut présenter des risques pour la santé, notamment à Montréal. En ce sens, la ville a lancé un plan de dépistage à grande échelle pour repérer et remplacer toutes les entrées d'eau en plomb sur son territoire d'ici 2032. Des tests sont également faits dans les écoles à intervalles réguliers partout au Québec. En cas de dépassement des normes, des filtres anti-plomb sont installés et le remplacement de la tuyauterie est planifié sur le long terme. Mais ces dernières années, des contaminants retrouvés dans l'eau du robinet, PFAS, microplastiques, pesticides, préoccupent de plus en plus les scientifiques et la population. Les limites de l'eau en bouteille. Est-ce que l'eau en bouteille est une alternative sécuritaire à 100%? On ne peut pas vraiment dire ça, répond Catherine Huot. D'après Santé Canada, les normes de qualité de l'eau embouteillée et de l'eau potable sont semblables. Il est même autorisé à vendre de l'eau en bouteille qui soit simplement de l'eau du robinet, dont on a réduit la quantité de minéraux et éliminé certains produits chimiques, comme le chlore. Selon l'organisme Eau Secours, 25% des bouteilles d'eau vendues au Canada sont remplies d'eau du robinet. Plusieurs études ont montré que des PFAS et des microplastiques ont aussi été retrouvés dans l'eau en bouteille. Et celle-ci vient avec un coût pour les consommateurs, mais également un coût environnemental, puisque ces bouteilles doivent être fabriquées puis éliminées en fin de vie. Acheter de l'eau en bouteille alimente ainsi une sorte de cercle vicieux. Les bouteilles en plastique contribue à la charge en plastique de notre environnement, qui se retrouve dans l'eau sous forme de microplastique, indique Mme Huot. En chiffres, source, Eau Secours. Chaque année au Québec, il se vend plus de 2 milliards de bouteilles d'eau. D'autres options. Catherine Huot souligne que de l'eau en vrac peut être achetée dans certaines épiceries. Cela peut être une façon de remplacer l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, à condition de respecter les règles d'hygiène pour le remplissage et de bien laver le contenant qu'on apporte, car il peut finir par être contaminé par des bactéries. On peut éventuellement songer à filtrer l'eau du robinet. Mais cela nécessite un entretien régulier et cela vient, encore une fois, avec un coût pour les consommateurs. Attention également, les filtres au charbon peuvent favoriser le développement de bactéries s'ils ne sont pas utilisés correctement et remplacés régulièrement. Que choisir? Finalement, en prenant tous ces éléments en compte, l'INSPQ conseille plutôt d'opter pour l'eau du robinet, sauf cas particuliers. De son côté, Santé Canada recommande aux personnes dont le système immunitaire a été affaibli de boire de l'eau embouteillée désinfectée, par ozonisation par exemple. À noter que, pour les tout-petits, il est déconseillé de leur donner de l'eau minérale ou minéralisée, mais ils peuvent consommer d'autres eaux embouteillées, de même que l'eau en vrac ou du robinet. Si vous avez des doutes au sujet de la qualité de votre eau, par exemple, si elle change de couleur, d'odeur ou de goût, vous pouvez vous adresser à votre municipalité pour la faire tester. C'était « Au robinet ou en bouteille, quelques tuyaux pour choisir votre eau », un texte de Chloé Bourquin, paru le 18 avril 2025 dans La Presse.
Les libraires craquent, essai québécois. Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 8 avril 2025 dans Les libraires. 1. Tu disparais mon amour, par Clara-Lise Gagnon, édition PUM. Le troisième opus de la collection Les Salicaires étonne par sa forme et par son fond. Guy, l'amoureux de l'autrice, a été frappé mortellement par une voiture alors qu'il s'éloignait d'elle à vélo. La jeune femme, alors âgée de 18 ans, culpabilise d'avoir contenu son désir de crier haut et fort son amour et, par un effet de domino, d'avoir évité l'accident en retardant de quelques secondes le trajet à vélo. Incapable de surmonter ce deuil, la jeune femme disparaît, elle aussi. Leur amour grandit grâce aux rêves. Ce récit en fragments se transpose dans plusieurs temporalités, mélangeant rêves et vie réelle, défiant toute linéarité. Des éléments sont dévoilés au fil des pages, ajoutant une légère touche de suspense. Un livre envoûtant et sensuel, comme ce grand amour, une suggestion de Julie Collin, de la librairie La Liberté. 2. Tu viens d'où? Réflexion sur le métissage et les frontières, par Maïka Sondarji, édition Luxe. Accessible, touchant, informatif, nuancé, ce sont ces adjectifs qui viennent spontanément à l'esprit à la lecture du livre de Maïka Sondarji. Avec sa large part accordée au récit personnel rehaussé d'anecdotes dont l'humour se teinte de tendresse, ce récit-essai porte une analyse nécessaire sur ce que signifie être métisse aujourd'hui, faute d'un mot définissant mieux cette réalité qui suscite encore, entre racisme et idéalisation, nombre d'idées reçues. De son écriture vive, débordante d'intelligence, Maïka Sondarji contextualise avec limpidité et dit sans détour ce qui a besoin d'être dit. Un ouvrage qui ouvre le regard, en décompartimente les angles et défait les nœuds d'incompréhension et d'ignorance qui paralysent encore nos sociétés. Une suggestion de Josiane Letourneau, de la librairie Médiapole. 3. Boréalisé, par Cassie Bérard, chez Publication Zinc. Boréalisé est une œuvre difficile à classer. Dans ce livre, issu du projet interdisciplinaire « Réécrire la forêt boréale », les autrices et auteurs se donnent ici pour mission de s'inspirer des recherches scientifiques faites en écologie forestière pour écrire de la fiction. En plus d'être un bel objet, imprimé sur un papier vieux rose avec un texte vert forêt, Boréalisé nous plonge dans une suite de textes variés, allant du récit nostalgique à la poésie, au théâtre. Certains nous restent plus en tête, comme celui du traducteur de Slovaque, pris au dépourvu lors d'une conférence universitaire, ou celui sur la littérature castorienne, coup de cœur. Un deuxième volet du projet serait d'ailleurs en préparation, ce qui sera à surveiller. Une suggestion d'Andréane Pierre, de la Maison de l'éducation à Montréal. 4. Le Québec à pied, 50 itinéraires de rêve, guide de voyage Ulysse. Lorsqu'on parle de voyage doux pour l'environnement, on s'imagine souvent sillonner des territoires en train, à vélo ou, pourquoi pas, en voilier, mais on imagine moins souvent un parcours entièrement marché. Le Québec à pied, 50 itinéraires de rêve, vous entraîne pourtant aux quatre coins du Québec, seulement muni de vos jambes et de bonnes bottines de marche. On y découvre des chemins de pèlerinage, mais aussi des marches contemplatives ou urbaines, comme celle réalisée par Rodolphe Lasnès autour de l'île de Montréal, et finalement de longues randonnées dans l'arrière-pays, sur le sentier national en Mauricie, ou le long des rivières du Bas-Saint-Laurent. Un type de périple que l'on aime voir se démocratiser et qu'on ne peut qu'encourager. Une suggestion de Charlie Gill de la librairie Ulysse. C'était les libraires CRAC, essais québécois, quatre suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 8 avril 2025 dans Les Libraires.
Robert Baudry, bilan et projet pour un village en mutation. Propos recueillis par André-Constantin Passiour, paru le 28 avril 2025 dans le magazine Fugue. Le village est un quartier incontournable de Montréal. On ne cesse de donner son avis à son sujet, défavorable ou favorable, mais il bouge, il vit, et nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui s'activent pour améliorer sa qualité de vie. Parmi ces personnes, il y a l'élu Robert Baudry, qui en est à son second mandat. Le village, il l'aime, et il tient à faire état de tous les chantiers en place, conscient des irritants, mais plein d'espoir pour les années à venir. Comme il se plaît à le rappeler, ce n'est qu'avec l'engagement de l'ensemble des actrices et des acteurs du secteur, et bien évidemment la participation de la ville de Montréal, que le village pourra se refaire une jeunesse. Pour celles et ceux qui s'en inquiètent, il n'y aura pas de travaux en 2025. Ce membre du comité exécutif annonce aussi ses couleurs et sera à nouveau engagé dans la campagne électorale municipale en novembre prochain, alors qu'il sollicitera un troisième mandat. Travaux sur la rue Sainte-Catherine. Robert Baudry. Les travaux de canalisation ne commenceront pas avant 2026. Enfin, si les travaux de canalisation sont reportés en 2026, c'est que nous voulons arriver avec un concept pour donner une signature au village, comme l'a été la canopée de boules de cormier, qui a eu un rayonnement international. Il y aura une partie de la rue piétonnière à l'été 2026, avec des couloirs pour contourner les travaux. Le succès d'une opération comme celle-ci tient tout d'abord en une bonne communication avec les commerçants, commerçantes et les résidents, résidentes. Avant, nous n'avions que le canal de la SDC, Société de développement commercial du village. On a aujourd'hui le canal de l'Association citoyenne du village de Montréal, ACVMTL, entre autres, pour passer des messages. L'autre élément majeur pour moi, ce sont les programmes de soutien qui seront au rendez-vous pour les commerces affectés par les chantiers. On les garantit avec le service de développement économique. On veut aider les commerçants à passer à travers cette période-là, car on sait que c'est une période qui n'est jamais facile, qui a un impact. Mais cela peut avoir un impact positif après. Communication, programme d'aide, mais aussi programmation avec la SDC de l'activation et de l'animation des espaces qui ne seront pas affectés par les travaux pour que les gens viennent dans le secteur, donc d'assurer la promotion des commerces qui sont ouverts malgré les travaux. Pour le village, c'est un chantier majeur sur la colonne vertébrale qu'est la rue Sainte-Catherine. C'est pour cela qu'on avait lancé le Forum du village en septembre 2022 pour discuter de tout cela. Il y a plein de choses qu'on a fait. On a participé à la création de l'ACVMTL, on a mis en place aussi le FIL, le Fonds d'investissement local. C'est 500 000 $ sur 3 ans, de l'aide à des projets pour des organismes communautaires du secteur du village. Comme conseiller local, je veux tabler sur cette collaboration avec la SDC du village et avec l'ACVMTL et d'autres encore. Nous soutenons la SDC du village aussi par l'animation l'été et la piétonnisation, mais aussi avec la brigade des alliés du village. On vient pérenniser ce projet-là à l'année. Si on peut transformer un environnement, ce sont tous les membres de l'environnement qui doivent y contribuer, dont les populations vulnérables, qu'on leur donne une opportunité de se faire valoir et de se mettre en action pour prendre soin de cet environnement-là. Les irritants qui perdurent, l'itinérance, la toxicomanie et la sécurité. Je fais une distinction comme les citoyens et les citoyennes du quartier qui font une distinction entre itinérance et criminalité. Par exemple, pour moi, ce qui se passe autour du métro Baudry n'est pas un enjeu d'itinérance, mais un enjeu de criminalité. Commençons alors par la criminalité. On vient de mutualiser les efforts de deux postes de quartier, 21 et 22, pour avoir une présence policière sur le terrain, mais aussi pour rapprocher les équipes d'enquête sur le terrain, parce que dans les objectifs du poste 22, c'est de ramener des équipes d'enquête qui enquêtent sur les réseaux criminels avec une augmentation d'effectifs dans le secteur. 30 à 35 policiers, policières pour l'été, et de 40 à 48 à partir de l'automne. Pour les citoyens et les citoyennes, il n'y aura aucune différence. Le poste 22 reste un point de service. Il y aura toujours des patrouilles en périphérie. Le schéma de couverture reste le même. Les points de service restent les mêmes, mais on utilise les bureaux de façon différente. C'est l'opportunité de ramener les équipes d'enquête au plus près du terrain. La ville donne les moyens, mais effectivement, on demande plus de moyens des autres ordres de gouvernement, entre autres pour les équipes mixtes plus particulièrement, ce qui est selon moi la clé du succès, les équipes mixtes. Et concernant le parc Charles S. Campbell, où l'on retrouve des seringues et souvent de la vente de drogue, c'est pourquoi les familles n'y vont plus. Le point de service du poste 22 reste ouvert. Il y aura toujours des patrouilleurs en périphérie. Le schéma reste le même. C'est une mutualisation opérationnelle. Mais les points de service des postes de quartier 21 et 22 restent. Donc, il y aura une plus grande présence policière au parc Charles S. Campbell. On n'est pas fermé à l'idée de faire affaire avec des partenaires comme le projet pilote avec des agents de sécurité, si l'on pense au volet criminalité qui s'y déroule. On peut aussi occuper le parc. Si, par exemple, un groupe veut organiser une activité, on a un fonds d'initiative locale, FIL. On met des sommes d'argent disponibles pour l'organisation d'événements. Aujourd'hui, on a une association citoyenne, on a un FIL, tout est là pour qu'un porteur de projet décide de faire une activité comme l'ancienne fête de quartier qui était avec Peter Sergakis, et on apportera notre soutien technique. Maintenant, concernant le parc lui-même, il y a un réaménagement qui s'en vient avec la rue Garot, qui est à l'arrière du parc. Vous écoutez Robert Baudry. Bilan et projet pour un village en mutation. Propos recueillis par André-Constantin Passiour, paru le 28 avril 2025 dans le magazine Fugue. Concernant l'itinérance, les problèmes de santé mentale et de toxicomanie sont souvent liés. Comment y répondre? S'il faut être sans concession en ce qui concerne la criminalité, il faut une approche bienveillante face aux populations vulnérables. Il faut rappeler que pour certains itinérants, certaines itinérantes, c'est avant tout un manque de logement abordable. Elles sont victimes de la loi du marché et de l'augmentation des prix du loyer. La ville veut répondre aux besoins de son monde, mais ce n'est pas de notre compétence. On marche parfois sur les compétences des autres paliers de gouvernement et on l'a fait cet hiver en ouvrant des haltes chaleur. Quand une ville est rendue à ouvrir des haltes chaleur, c'est qu'il y a un moment donné quelque chose qui ne marche pas. Je vais aller à la défense de mon collègue Lionel Carman, le ministre des Services sociaux. C'est quelqu'un qui est proche du terrain, qui veut, comme individu, comme ministre. Excusez-nous, mais ce n'est pas l'impression qu'il donne. Je sais, mais c'est le seul ministre que j'ai vu débarquer pour rencontrer les organismes communautaires du secteur. Mais le problème, c'est qu'ensuite les budgets ne suivent pas. Quand on ne soutient pas les organismes communautaires à la hauteur des besoins, il faut continuer à faire des pressions auprès du gouvernement. Nous discutons régulièrement avec Lionel Carman des réalités et des enjeux du village et du quartier latin qui sont les mêmes. De notre côté, nous, on a mis les sommes pour le soutien communautaire, particulièrement dans le dossier de l'itinérance. On arrive avec des projets d'unités modulaires. Mais pour sauver le village, cela ne viendra pas que du village, mais de mesures qu'on va développer dans d'autres quartiers, c'est-à-dire en offrant plus de services aux populations vulnérables dans d'autres quartiers. J'enlève la pression à un secteur. Cela ne veut pas dire qu'il y a trop d'organismes dans le village. Ils sont importants et il faut continuer à les consolider. En revanche, il n'y en a pas assez ailleurs. C'est pour cela que l'on a acheté l'église Sainte-Bibiane dans Rosemont, que l'on travaille dans Antique, un projet modulaire comme dans NDG et Côte-des-Neiges pour les personnes vulnérables. Il y a des éléments qui vont venir du village et d'autres qui vont venir en périphérie et répondre aux besoins de cette population. La ville joue un rôle par l'acquisition d'anciennes maisons de chambre. On en a acheté près du métro Papineau et l'objectif est de les offrir à des groupes communautaires pour les rénover et les gérer. C'est une solution. Le travail sur l'abordabilité, sur le logement social, le logement hors marché, contribue à réduire la tension dans l'espace public parce que les gens ont un endroit pour se réfugier et trouvent aussi un accompagnement nécessaire. Et plus spécifiquement, en toxicomanie et en santé mentale, je travaille très fort auprès de mon collègue Lionel Carman pour le sensibiliser à cet enjeu-là. Il y a un trou de services dans le réseau des services sociaux et de santé concernant la toxicomanie. C'est problématique, parce que si l'on envoie une personne toxicomane vers le CHUM, ils ne sauront pas quoi faire avec et ils vont la remettre dehors. Les sites offrant des services ne sont pas assez nombreux sur le territoire montréalais. Il y a un manque dans les services de santé pour soutenir la population toxicomane. Nous, on va continuer à travailler avec les groupes communautaires qui font de la prévention, car on veut éviter les surdoses. En termes de surdoses, on est dans des chiffres semblables au pic du sida dans les années 1980. On peut diriger cette population vers des ressources, mais si le réseau de la santé ne s'adapte pas, cela devient difficile. On doit porter le message avec nos collègues, avec nos représentants politiques d'autres paliers de gouvernement où ça prend un réseau plus soutenant pour ces personnes-là, pour éviter, par exemple, qu'elles consomment dans l'espace public. On ne veut pas que nos enfants se retrouvent devant des seringues ou assistent à certaines situations. Est-ce que les soutiens sont en quantité suffisante? Est-ce qu'ils sont bien répartis sur le territoire de Montréal? Sûrement pas. Mais cela ne relève pas de la compétence de la ville. On le rappelle tout le temps au provincial et au fédéral. On porte ce message lors des conseils municipaux où l'on rappelle les limites des pouvoirs de la ville. Valérie Plante parle aujourd'hui de crise humanitaire. Et le projet de l'espace LGBT? On veut soutenir le projet Espace LGBT ou encore celui du Centre Saint-Pierre pour offrir des locaux à des prix abordables aux groupes communautaires. On sait que les organismes communautaires LGBTQ sont les moins bien financés par l'État. On le rappelle lors de nos différentes rencontres pour le maintien de ces organismes dans leur milieu. Nous faisons des efforts, on aide quand on peut et surtout on porte le message. C'est pour cela que l'espace LGBT vient cristalliser pour moi quelque chose d'important. On les a aidés pour le financement de l'acquisition et la prochaine étape est la rénovation de la bâtisse, et cela demande beaucoup d'amour. Le gros soutien va venir du fédéral, car c'est là où il y a le plus d'argent en termes d'infrastructures. On espère qu'ils auront des bonnes nouvelles du gouvernement fédéral. On va continuer à les accompagner. On a adapté la réglementation pour faciliter l'installation communautaire pour les chantiers pour ne pas payer certains permis. Ils pourront bénéficier de ces assouplissements-là. Il y a vraiment un soutien pour le réseau communautaire. Je porte aussi le message auprès de Martine Biron pour lui présenter notre plan sur l'avenir du village, puisqu'elle est la ministre responsable des communautés LGBTQ+ au gouvernement, et pour la sensibiliser à l'importance de soutenir financièrement l'espace LGBTQ. Le visage du village va changer à ses deux extrémités avec les nombreux projets immobiliers, la réfection de la membrane de la station Berry et les alentours de la place Émilie-Gamelin, avec l'îlot voyageur et les prochaines tours Mondev. Actuellement, il y a de bonnes nouvelles. Il y a des commerces qui viennent s'établir tout en sachant que des travaux sont à venir. Il y a aussi la tour Émilie-Gamelin à la place de l'ancien Da Giovanni, dont les travaux viennent de commencer. Les permis sont émis depuis longtemps et ensuite les délais dépendent des promoteurs. Pour l'ancien îlot voyageur, le projet a pris du retard en raison de la pandémie. On a fait une entente préliminaire avec Mondev et Util, unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. Empire s'installe aussi dans les locaux de l'ancien Archambault. Quant à l'est de la rue Sainte-Catherine, proche de Papineau, il y a la construction Mondev avec une épicerie Maxi. On parle aussi d'un projet résidentiel à la place de l'ancien bar Berlin, ou encore du redéveloppement de TVA, qui comprend aussi la transformation du stationnement en tour d'habitation. Et ça, c'est déjà passé au comité exécutif. On arrive à la fin de ce mandat-ci et je pense que c'est important que l'on puisse parler de tout ce que l'on a fait. Tout n'est pas parfait, mais il y a énormément de choses qui ont bougé. Je pense que l'on se retrouve dans une position beaucoup plus solide comme communauté dans le secteur que lors du début du mandat. Ma volonté, comme conseiller de Saint-Jacques, était de dire que les réponses ne viendraient pas toutes de la ville, car si elles viennent juste de la ville, quand on parle de social, d'itinérance, de vitalité commerciale, la ville de Montréal peut faire des choses, mais toute seule, elle n'y arrivera pas. C'est avec l'addition de chacune des personnes que l'on va pouvoir faire cette transformation. Et nous travaillons ensemble, comme avec la SDC et l'ACVMTL, et nous avons mis en place les assises, les fondations. Mon objectif dans un troisième mandat, c'est de capitaliser là-dessus et accélérer les choses. C'est ce que je souhaite. C'était Robert Baudry, bilan et projet pour un village en mutation. Propos recueillis par André Constantin Passiour, paru le 28 avril 2025 dans le magazine Fugue.